Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mathilde est mariée dans une vie parisienne bien rangée. Avocate, elle réussit brillamment sa vie professionnelle, mais a le sentiment de passer à côté d'un essentiel. Peut-être celui de se sentir vivante et épanouie. J'ai rencontré Mathilde dans sa nouvelle vie, celle d'une femme qui a fait le choix de vivre ses rêves en se laissant porter par la vie et les rencontres. Auroville est devenue son terrain d'étude. L'émission s'appelle « Regarde d'ailleurs ». Donc vraiment, cette idée, c'est d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde, grâce à des expériences vécues, soit les siennes, soit des expériences peut-être inspirées par d'autres personnes. Donc l'idée de « Regarde d'ailleurs », c'est vraiment d'amener un regard nouveau à travers les expériences des uns et des autres. Mathilde, je te rencontre ici, sur le toit de la Solar Kitchen, quelque part dans le sud de l'Inde, pas trop loin de Pondichéry, dans un endroit qui s'appelle Auroville. Donc on en parlera peut-être un petit peu plus tard de cette communauté internationale qui existe depuis plus d'une cinquantaine d'années. Mais je vais d'abord m'intéresser à toi, ton univers, ton parcours, et peut-être ta rencontre avec l'ailleurs, avec le voyage, ce qui fait qu'un jour tu as choisi de quitter la France ou d'aller au-delà des frontières de la France. Donc voilà, on va revenir un peu en arrière et Mathilde avec nous, ben vas-y, à toi la parole. Qui est Mathilde ?
Qui est Mathilde ? Mathilde, elle est plein de choses. Mathilde, elle est française. Je pense que je me définis comme française parce que, par exemple, je me suis aperçue que j'avais... En fait, quand j'étais en France, je trouvais que j'étais pas très française, qu'il y avait plein de choses avec lesquelles je connectais pas. Et en fait, quand je me suis retrouvée à l'étranger, je me suis aperçue à quel point j'étais française et à quel point la culture française était en moi. Et c'est vrai que, par exemple, d'être là dans le sud de l'Inde, à un endroit où donc Pondichéry qui était un comptoir français, donc il y a beaucoup de Français ici. Et pour moi, c'est important, de, malgré le fait que je sois à l'étranger, d'avoir cette connexion française, cette possibilité de parler français, parce que j'adore parler, j'adore le français. Et donc, ouais, je peux me définir d'abord comme française. Et puis après, dans mon parcours de vie, j'ai grandi à la campagne, dans un tout petit village. Mon père est agriculteur et ma mère avait des chambres d'hôtes. Et puis, et moi, j'étais très douée à l'école. J'ai une intelligence bien comme il faut, logico-mathématique, qui marche bien à l'école. Donc les profs et mes parents m'ont toujours encouragée à poursuivre mes études. Moi, je voulais être maîtresse, je voulais être professeure, c'était mon rêve. Mais les profs m'ont pas encouragée dans cette voie. Aussi, j'aimais beaucoup le dessin, les matières artistiques, la photo, mais pareil, les profs m'ont pas encouragée en me disant c'est pas vraiment des métiers d'avenir. Donc mon autre passion, c'était le droit. Enfin, non, c'était, disons que dès petite, je supportais pas les injustices. Et donc, quand j'avais 12 ans, je crois, je me suis dit, je vais faire juge, je vais étudier le droit. Et donc, du coup, voilà, j'ai continué tout doucement mon chemin. Oui. Et donc, j'étais en fac de droit à Dijon, ensuite à Nanterre. J'ai fait du droit social, donc du droit du travail et droit de la sécurité sociale. Et puis, en fait, à cette époque, j'avais une devise, c'était « je vais là où le vent me porte ». Donc je me laissais porter par la vie et par les rencontres. Du coup, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée à Nanterre à faire du droit social. Et tous mes amis passaient le concours d'avocat. Donc du coup, j'ai dit, bon, allez, je le fais avec vous, les copains. Et puis du coup, si je fais les choses, je me mets quand même toute mon énergie dedans. Donc j'ai été à l'école d'avocat. Et puis après, on finit l'école avec un stage. Et puis, on m'a proposé un travail. Et donc voilà, j'ai travaillé. J'avais toujours eu l'envie de voyager. Parce que quand j'avais 16 ans, je suis partie 3 mois en échange scolaire au Canada. Et ça a changé ma vie, quoi. En plus, le système scolaire là-bas, j'ai adoré. Parce que c'était ça aussi, que je voulais être prof, mais j'aimais pas le système scolaire français. Je me rendais bien compte que si moi j'arrivais à m'en sortir, 80% de mes petits copains, ils y arrivaient pas, en fait. Parce que ils avaient pas cette même logique mathématique, et puis cette envie d'étudier, de lire, de comprendre. Ils avaient d'autres formes d'intelligence qui étaient pas forcément mises en valeur à l'école. Et je le voyais, donc je me disais, je vais pas être prof. si c'est pour emmener les gens à l'échec, en fait. Et alors que quand j'étais au Canada, par exemple, je me suis aperçue du système scolaire là-bas et j'ai adoré. C'était, moi, les meilleurs moments de ma vie. J'ai adoré aller à l'école parce qu'on choisissait les matières. Et puis c'était complètement une ambiance différente. Et les élèves étaient aussi bien plus responsabilisés. Du coup, ça m'avait bien plu. Donc, j'avais toujours eu envie de voyager, mais j'ai jamais pu parce que j'ai toujours enchaîné en fait les études, l'école d'avocat, le travail. Donc voilà. Après, c'était Mathilde dans sa vie parisienne qui travaille dans un grand cabinet anglo-saxon.
Alors attends, avant de t'intéresser à ta vie parisienne, t'as dit des choses intéressantes sur cette notion de l'école et ses différentes formes d'intelligence. Donc toi, tu fais partie des premiers de la classe qui arrivaient à bien t'adapter ou peut-être à te suradapter finalement à un système de notation. Mais t'as très vite compris que cette adaptation n'était pas forcément le meilleur moyen pour pouvoir se réaliser soi et qu'il y avait aussi une sorte de dissonance et une sorte d'injustice par rapport à ceux qui n'étaient pas dans cette forme d'intelligence.
Ouais, complètement. C'est vrai que moi j'ai toujours aimé être à l'intérieur, lire, même dessiner, mais être dans ce format de j'étudie, j'apprends, je faisais mes devoirs toute seule, mes parents n'avaient jamais à me pousser. Donc j'étais dans les premières de la classe. Et j'ai repris des études, j'adore étudier, c'est vraiment mon cerveau, il se nourrit de ça, j'adore, mais carrément, je voyais très bien. J'ai grandi à la campagne, il y avait beaucoup de gens qui étaient soit fils d'agriculteurs d'ailleurs comme moi, ou fils d'ouvriers, ils n'avaient pas envie de passer leur temps à étudier, ils avaient envie d'être dehors, de se dépenser, de faire des choses plus artistiques, mais c'était pas du tout mis en avant. En plus, on avait des profs qui étaient sur la fin de leur carrière, donc c'était pas très innovant les techniques qui étaient appliquées dans notre petite école. Moi j'ai des amis, j'ai les mêmes depuis que j'ai 3 ans, j'étais à l'école de 3 à 15 ans, maternelle, primaire, collège, c'était la même classe que j'ai suivie, donc c'était chouette, tu vois, c'était chouette, mais effectivement on s'en est pas tous aussi bien sortis après dans la continuité des études, quoi. Ça a été ma manière de me faire aimer par mes parents, c'est le message que j'ai interprété moi-même, de me dire il faut que je sois une bonne élève, il faut que je sois une gentille fille, il faut que je fasse tout bien et comme ça on va m'aimer.
Ça marche.
Je pense que mes parents m'auraient aimé même si j'avais pas fait tout bien à l'école. Surtout que mon frère, lui, a pris l'opposé, lui il faisait que les bêtises et malheureusement, il l'aime aussi. J'ai pas compris là. Il s'est passé un truc. Mes parents nous aiment tous les deux.
Ouais. Mathilde, donc tu réussis brillamment tes études. Tu vas tu fais du droit. Tu termines ton école ou ton concours d'avocat. Tu te retrouves à Paris.
Ouais, je me suis retrouvée à bosser à La Défense, dans une tour. Après, on a déménagé dans la tour. Mon bureau, il était peut-être au 30e ou 35e étage. Il y a eu toujours en moi deux tendances. La tendance, justement, pareil, j'adore ce que je fais, la stimulation intellectuelle. On travaille sur des dossiers hyper intéressants parce que c'est un grand cabinet. On travaille avec des gens dans le monde entier. Et on est vraiment dans cette tendance à... En fait, en l'absence de réglementation précise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il faut créer du droit, créer des règles applicables. Et ça, j'adorais. Mais à côté de ça, il y avait aussi, je voyais très bien que les gens, ils étaient, enfin, on n'avait pas les mêmes motivations. Dès le début, moi, je leur disais non, mais un jour, les gars, moi, j'irai élever des lamas dans le Larzac. Et il y avait ce truc en moi ça me correspond pas. C'est pas moi, c'est pas ma vie. Même si j'adore, même si j'en profite, j'étais très bien payée, donc j'allais tout le temps au restaurant, je m'achetais des fringues de marque. Quand j'avais des vacances, je partais, j'ai fait des super voyages. Mais il y avait l'ambiance, je voyais bien que ça me correspondait pas, quoi. Que les gens, ils étaient là pour l'argent, pour la réussite. Et moi, j'étais là pour faire de mon mieux et pour m'amuser, quelque part, ou pour me stimuler intellectuellement. Mais au bout d'un moment, ça suffisait plus. Parce que la pression, parce qu'on devait travailler de plus en plus, les week-ends, les soirs. Après, j'étais à un moment où... je devais annuler mes dîners parce que j'arrivais jamais, parce que les États-Unis, c'était le vendredi à 5h, c'est là où d'un coup ils se réveillaient, donc il fallait faire des conférences téléphoniques avec les États-Unis. Et du coup, je devais annuler mes dîners, et puis après je rentrais à la maison le week-end et je faisais que dormir parce que j'étais trop fatiguée d'avoir bossé de 8h à 22h. Du coup, je voyais plus trop mes amis, je me suis séparée de mon compagnon. À ce moment-là d'ailleurs, il m'a dit, lui il faisait 35 heures, il m'a dit t'es jamais là. On n'a plus les mêmes orientations de vie, les mêmes choix, les mêmes envies, les mêmes parcours, quoi. Donc, heureusement, j'avais des très bons collègues. Et ça, on se serrait les coudes entre collègues débutants, entre guillemets, ensemble. Et, mais ouais, c'était d'un côté très chouette et d'un côté très dur.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Qu'est-ce qui a fait que tu choisis de faire un virage et que tu partes à l'étranger ? Donc tu étais déjà venu, donc tu avais déjà voyagé, mais si j'ai compris, c'était plus sur des périodes de vacances. Hein, tu avais des vacances sur 5 semaines par an, donc à ce moment-là, quand on part une semaine par-ci, une semaine par-là, c'est pas la même chose que de partir en voyage.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, avec mon premier travail, là, c'est ce cabinet anglo-saxon, je suis restée 4 ans, ouais, ou 5 ans, 5 ans. Je suis restée 5 ans dans ce cabinet et à la fin, j'étais quasi en burn-out, quoi. C'est-à-dire qu'on me croisait dans les couloirs. Si tu m'avais croisée dans un couloir et tu me dis « Alors, ça va, Mathilde ?» Je me serais mise à pleurer, quoi. J'étais tellement à un niveau émotionnel et de stress, de tension, que du coup, j'ai démissionné. J'ai démissionné de ce travail en me disant voilà, je vais partir, je vais voyager. Et puis la réalité m'a rattrapée parce que tous les gens autour de moi m'ont dit mais t'es folle, t'as démissionné, donc t'auras pas le chômage, donc il faut que tu retrouves un travail, comment tu vas faire ? Et j'ai pris cette peur qui n'était pas la mienne à la base, mais et donc j'ai tout de suite recherché un travail que j'ai trouvé dans un autre cabinet d'avocat. Et donc j'ai eu 3 mois entre les deux en fait de break. Et à cette époque-là, j'étais avec un ami qui avait une amie qui était mariée à un Indien et qui vivait en Inde et qui avait un hôtel et enfin qui a toujours d'ailleurs un hôtel et un restaurant à Goa en Inde. Et donc il m'a dit on a qu'à aller les voir en Inde. Et moi je me suis dit mais l'Inde pas du tout, ça m'intéresse pas du tout, Delhi, la pollution, les gens partout, les voitures et tout. Et il m'a dit, mais non, c'est la campagne, c'est pas du tout l'image qu'on en a, on y va. Donc on y est allé, effectivement, on a passé, je crois, 2 mois à Goa et 1 mois au Sri Lanka. Et donc on a évité les villes. Et j'ai adoré, ouais, j'ai adoré, parce que c'était, de toute façon, Goa, c'est la plage, le soleil, bien manger, la piscine. Donc c'était ce dont j'avais besoin. Et puis après, je suis retournée en France, j'ai repris mon nouveau travail. Mais là, le cœur, il y était plus, quoi. C'était trop tard. J'étais passée à autre chose. Et même si je m'étais dit, je donne 80% de ce que je donnais avant, je pouvais plus. Je suis arrivée à un moment où même j'arrivais plus à me lever le matin. Il fallait que j'aille à 10h parce que j'arrivais plus à me lever. J'avais plus du tout envie, quoi. Et puis, entre chez moi et le métro, il y avait un café qui est ouvert quasiment toute la journée, enfin, genre de 7h à 22h. Et donc, je passais devant le matin, le soir. Et un jour, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aimerais être serveuse. Et là, je me suis dit, Mathilde, il y a un problème. T'es avocate, c'est la classe absolue, tu vois, tu gagnes plein d'argent, t'as un super métier, tu vis à Paris, et t'as envie d'être serveuse. Je me suis dit, j'ai envie d'être serveuse à Bali. Donc je me suis dit, t'as envie d'être serveuse à l'étranger, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, le premier truc, c'est que je me suis dit, ma vie manque de contact humain. Parce qu'en fait, en gravissant les échelons, j'étais genre manager dans le cabinet d'avocat. Donc j'avais mon bureau toute seule, j'étais plus avec mes collègues. Et mes clients, c'était des clients à l'étranger, donc j'étais tout le temps au téléphone. Et je rencontrais personne de ma journée, quoi, à part le chef une fois dans la journée ou les collègues à l'heure du déj, quand j'avais le temps de prendre le déj. Donc je me suis dit, ma vie manque de contact humain et ma vie manque de pays étrangers. J'avais toujours eu cette envie de voyager des petites, quoi. Et donc j'ai commencé à regarder, je me suis dit ok, dans un an tu vas partir. Pendant un an j'ai mis de l'argent de côté et je me suis dit, et j'ai commencé à regarder sur internet des missions à l'étranger parce que je me suis dit aussi, il me faut du sens, il faut du contact humain, mais il faut qu'il y ait du sens à ce que je fais et du sens à ma vie. J'ai envie de me sentir utile, j'ai envie de partager, j'ai envie. Et donc j'ai commencé à regarder les missions pour partir à l'étranger dans des cadres assez définis de volontariat avec des organisations françaises. Et il y avait beaucoup de missions pour aller enseigner le français, par exemple je me rappelle à Madagascar. Mais c'était souvent 6 mois ou 1 an et je me suis dit je me vois pas partir si longtemps en fait, j'étais pas prête à partir si longtemps. Et puis je me suis dit finalement j'étais allée en Inde, c'était sympa, peut-être que je vais trouver une mission plus courte. Et puis j'ai regardé le site des visas pour l'Inde et puis c'est là que j'ai entendu parler d'Auroville. Et donc j'ai vu qu'on pouvait faire des volontariats à Auroville de 2 à 3 mois, à partir de 2 mois. Donc j'ai contacté les gens ici et j'ai organisé un volontariat pour venir faire du volontariat ici. Donc je suis venue à Auroville, mais avant ça je suis aussi allée dans l'ashram de Hama dans le Kerala, celle qui prend les gens dans ses bras. Et parce que je faisais déjà du yoga, enfin des postures de yoga en France. Et donc j'ai eu envie aussi de voir l'aspect spirituel de l'Inde. Donc je suis allée dans l'ashram.
Et puis... ton deuxième voyage en Inde, là, hein, c'est pas la première fois quand tu pars dans les campagnes au Kerala ou à Goa, c'était vraiment dans ce deuxième voyage. Donc tu choisis de prendre ton année, c'est pas de quitter ton boulot et de te lancer dans une nouvelle réalité.
Oui, là j'avais démissionné en me disant je cherche pas un nouveau travail, je démissionne, je voyage, ouais. Et quand je reviens, mon idée c'était quand je reviens, je cherche par exemple un CDD pour pouvoir travailler et après voyager, travailler, voyager. Enfin c'était un peu mon idée. Mais je partais pour 3 mois à la base et c'était l'année de mes 30 ans. C'était l'année où j'allais avoir 30 ans au mois d'octobre et je me suis dit mais tu peux pas continuer comme ça, si ta vie te rend pas heureuse, voilà, 30 ans c'était un âge important et je me suis dit faut du changement, c'est le moment où il faut du changement.
Tu as quel âge maintenant ?
36. Okay. 36, ouais. Du coup je suis partie, j'ai travaillé un peu plus d'un an dans ce deuxième cabinet et ouais après j'ai démissionné et je suis partie le 31 août 2013. En fait, comme j'étais déjà allée en Inde avec un visa touristique pendant 2-3 mois, là, en 2012, et je savais que les règles sur les visas changeaient souvent. Et donc une fois, quand voilà, mon esprit vagabondait au bureau, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir quelles sont maintenant les règles pour les visas pour faire du volontariat en Inde. Et sur le site des visas, ils expliquaient, si vous êtes touriste, il vous faut un tourist visa. Si vous, et il y avait une ligne, si vous voulez rejoindre la communauté d'Auroville, il vous faut un entry visa. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est Auroville ? Et donc, j'ai regardé sur Internet et je me suis dit, mais ça a l'air génial, cet endroit, puisque c'est une communauté internationale où les gens se retrouvent avec l'espoir de faire des choses un peu différemment et pour quelque chose d'un peu supérieur à eux, quoi, pour ce qu'on peut appeler le divin ou les forces de la nature ou l'univers, mais un truc qui nous dépasse et pas le collectif et l'individuel ensemble et pas que l'individuel, quoi. Donc, je me suis dit, j'ai envie de venir voir cet endroit. Et je suis venue dans une ferme, parce que aussi je voulais reposer mon cerveau. Donc je suis venue travailler dans une ferme, qui est une ferme qui applique les principes de permaculture et du japonais Fukuoka aussi. Et donc j'ai travaillé 2 mois dans cette ferme, chez Krishna à Solitude. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'allais aussi à des cours, on a Savitri Bhavan, où on a des cours sur le yoga de Sri Aurobindo. Et donc j'allais à des cours sur le yoga intégral pour mieux comprendre ce que c'était. Et généralement, j'étais toute seule. Et un jour, il y a eu un autre élève qui est venu dans ce cours. Et puis, au cours d'après, il est revenu. Et puis, du coup, on a commencé à discuter. Et lui, il était colombien. Et ça faisait 2 ans qu'il était en Inde pour étudier le yoga. Et puis du coup, bah, on a bien connecté. Et donc, après, on est allé dîner. Après, on est allé à la plage. Et puis, une histoire d'amour a commencé. Sans trop prévoir... Donc, en fait, on a refait les démarches pour devenir volontaire à Auroville. Donc, on est revenu pendant un an, cette fois, comme volontaire à Auroville. Et là, on a eu envie de rester. Donc, on a fait les démarches pour rester à Auroville, pour devenir membre de la communauté d'Auroville et du coup, avoir un visa qui permet de rester sur plusieurs années.
Donc, c'est effectivement un virage à 250 degrés de ta vie d'avocate à Paris, à La Défense, pour te retrouver ici à faire de la permaculture dans une ferme. Donc, revenir quelque part à une forme d'essentiel et pour faire le choix aujourd'hui de rester ici à Auroville.
Ouais, et comme je t'ai dit, tu vois, je viens d'une famille d'agriculteurs. Quoi. Mon père est agriculteur, mon grand-père était agriculteur. Et mon autre grand-père avait aussi son jardin, il faisait pousser ses légumes. Et quelque part, j'ai un peu honte de ne pas savoir faire ça. Quoi. Moi, c'est mon frère qui allait plus voir la ferme, voir les animaux. Et moi, j'étais dans ma chambre à étudier ou à peindre. Et je sais rien, je savais même pas faire pousser ma propre nourriture. Voilà, j'ai vraiment développé l'intelligence. Et faire fonctionner mon cerveau, mais alors mes mains, je savais rien faire, quoi. Et en fait, en cas de survie, on est un peu, on n'est pas les premiers sur la liste si on sait bien utiliser notre cerveau, parce qu'il faut savoir faire pousser sa nourriture, c'est les bases de la survie, quoi. C'est les bases même de l'anti-système. Si on veut changer le système, c'est ce que Pierre Rabhi dit, commencez par faire pousser votre propre nourriture, parce que du coup, on n'est plus dépendant du système autour. Et donc, ouais, travailler dans une ferme et puis le contact avec la terre, se revenir aux sensations, c'est un truc qui vraiment m'avait manqué. En fait.
Par rapport au regard social, donc tu réussis brillamment, tu te retrouves à un poste à responsabilité, tu fais le choix de tout quitter pour retourner ici dans une communauté. Comment c'est perçu par ta famille, par tes amis, par les gens autour de toi ou par ton cercle professionnel de l'époque ?
Ça a été un peu dur pour ma famille. Mon père a accepté le plus facilement, alors que je ne m'y attendais pas forcément, mais il m'a dit finalement si voyager ou c'est ce qui te rend heureuse, ben profites-en. Ma mère, elle a eu plus de mal parce que je pense qu'effectivement, je représente un peu pour elle aussi une forme de reconnaissance sociale pour elle-même, de dire ma fille a réussi, ma fille a un beau métier. Du coup, elle a eu du mal à comprendre mon choix. Surtout ici, j'étais pas payée, j'ai travaillé en volontariat, donc et elle pouvait pas comprendre que je sois plus heureuse à travailler sans être payée dans une ferme que gagner beaucoup d'argent à Paris.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Parle-nous de ça, de cette notion de sens, de bonheur. Voilà, qu'est-ce que c'est finalement d'être heureux ? Parce que là, effectivement, tu nous prouves de par ton expérience qu'en gagnant beaucoup d'argent, c'est pas forcément ça qui t'a permis d'atteindre un équilibre intérieur.
En fait, il y a une partie de l'histoire que je t'ai pas racontée. C'est qu'avec mon compagnon, mon premier compagnon, d'ailleurs on s'est mariés en fait, en plus c'était mon mari, donc j'avais un mari, un travail, et on s'est séparés après un an de travail justement. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, mais ça faisait un an que j'avais commencé à travailler comme avocat, et c'est là qu'on s'est séparés. Et c'était aussi la fin de l'année fiscale dans mon cabinet, et donc 2 jours après notre séparation, où il m'a quittée, mais bon c'est un processus mutuel toujours, mais bon c'est quand même lui qui est parti avec une autre. 2 jours après, c'était les entretiens de fin d'année et ma chef me dit « Écoute, t'as super bien travaillé, on est vraiment contents. Tiens, on te donne un bonus de 10 000 euros. » Ce qui faisait quand même 3 mois de salaire ou 2 mois et demi, enfin une grosse somme. Enfin, 10 000 euros, c'est énorme quoi. Et sauf que quand on vous donne 10 000 euros ou quand on me donne 10 000 euros, 2 jours après que mon mari et mon compagnon de 10 ans me quittent, je me suis dit « Mais je m'en fiche de ton argent, c'est pas ça qui va me ramener mon compagnon, c'est pas ça qui va me nourrir de l'intérieur. » quoi. Donc ça a été une grosse leçon, même si j'étais jamais très attachée à l'argent, parce que dans ma famille, on en a eu, mais pas non plus, ni trop, ni pas assez. Donc on a cette notion de « voilà, et on dépense pour ce dont on a besoin, mais pas plus ». Mais ouais, du coup, ça m'a ramené vraiment sur le fait, ouais, l'argent, c'est pas l'argent qui va nous rendre heureux, c'est pas l'argent qui va nous nourrir de l'intérieur. Et progressivement, en fait, moi, durant la première période de voyage, où j'ai fait la formation de yoga, j'ai étudié avec le maître à New York, ça m'a permis de réfléchir et de me rendre compte, en fait, qu'est-ce qui, moi, m'a nourri, qu'est-ce qui, moi, m'a aidé, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'avais envie de contact humain. J'avais envie d'aider les autres à aller mieux quand moi je me suis aperçue de ce qui m'aidait à aller mieux. Et comme depuis petite je faisais beaucoup de peinture, et que par exemple quand mes parents avaient divorcé, moi j'avais complètement utilisé la peinture pour gérer le processus et réparer ce qui avait pu être cassé à ce moment-là en moi. Je me suis dit voilà, je veux aller dans cette voie. Et donc ça s'est monté progressivement en fait, où j'ai commencé à me renseigner, où j'ai découvert l'art-thérapie. Mais comme je faisais du yoga, je voulais intégrer aussi vraiment le corps, le mouvement. Et j'ai cherché, en anglais c'est expressive art therapy, donc c'est un peu plus large. En français c'est aussi art thérapie, mais ça inclut toutes les formes d'expression. Et puis j'ai aussi commencé du coup à chercher des formations pour aller plus vers l'art thérapie. En France c'était assez limité, parce que c'est limité aux gens qui sont déjà psychologues ou qui sont déjà artistes reconnus. Et puis j'ai trouvé en fait une formation en Inde. J'ai trouvé une formation à Chennai. Une formation d'un an, c'est un certificat, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était déjà un premier pas. Et donc j'ai fait cette formation à Chennai pendant un an. Et ensuite, à nouveau, presque par le plus grand des hasards, j'ai rencontré des gens à Auroville. Et il y avait une école, qui est une école d'Auroville, mais qui a été créée pour les enfants du village, puisqu'Auroville essaie d'aider les gens autour, tu vois. Et du coup, pour les enfants du village, ils ont créé une école. Et il y avait une art-thérapeute américaine qui travaillait là-bas. Donc j'ai voulu la rencontrer. Je crois que j'ai passé 1 ou 2 semaines avec elle. Et en fait, après ces 2 semaines, elle m'a dit « En fait, je m'en vais. Ça fait 5 ans que je suis là, mais j'ai décidé de partir. Donc si tu veux mon poste, si tu veux mon job, tu le prends. » comme j'avais toujours voulu être, travailler avec les enfants, être maîtresse, que ici aussi j'avais découvert l'éducation intégrale. Entre-temps, j'avais découvert toutes les éducations alternatives, Montessori, Freinet, Steiner. Et comme moi aussi, je m'étais intéressée à mon propre développement personnel, bah, quand on, par des ouvrages ou par des stages, forcément, il y a toujours des références aussi au développement de l'enfant. Donc, je m'étais beaucoup intéressée au développement de l'enfant, à l'éducation bienveillante, à tout ce qui est psychologie positive ou éducation positive, etc. Et avant, j'avais eu mon BAFA à 17 ans, j'avais déjà travaillé avec des enfants. Et donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, on va essayer. Finalement, c'est un cadeau presque de la vie, donc je le prends, quoi. Parce que du coup, j'ai eu carte blanche pour avoir un espace avec les enfants. Et j'ai pris les enfants en demi-classe, donc en groupe de 10-12. Et on a fait des activités pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, quelles sont les émotions qui existent, pourquoi on a des émotions, comment les gérer. Et tout ça avec de l'activité artistique, donc avec du dessin, de la peinture, des activités de théâtre ou de danse, de musique.
Mais donc toutes ces activités-là, tout ce côté sensoriel, tout ce côté être à l'écoute de soi, de ses émotions, c'est quelque chose que tu as vraiment développé dans la suite de ton parcours personnel. C'est pas du tout des choses qui t'ont été inculquées dans ton parcours professionnel. C'est à un moment donné, dans ce switch, tu as appris à t'écouter.
Ouais, parce que je me suis aperçue en fait que je m'étais jamais écoutée. J'avais pas appris, personne m'avait appris à m'écouter, à savoir ce qui se passait en moi, à suivre mon cœur. Dans le sens, écouter mes émotions et ce qui fait sens pour moi. Il y a un moment où parfois on prend des décisions, où moi j'ai l'impression que quand je prends une décision, ça fait comme un gros oui à l'intérieur. Tu vois, et là, tu, si tu es à l'écoute de ton corps, tu le sens et ton corps il va te guider aussi pour savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Et moi j'étais tellement dans le mental que j'avais complètement déconnecté mon cerveau de mon corps. Enfin, je pense qu'il y a des professions qui sont tellement, justement, qui demandent tellement au niveau de l'intellectuel qu'on est obligé de déconnecter du corps parce que sinon on ne survit pas, quoi. C'est un mécanisme de survie. Et forcément, quand j'ai eu des remises en question, comme mon mari qui m'a quittée, là, je me suis intéressée à ce qui se passait, enfin, qu'est-ce que ça provoquait chez moi et qu'est-ce qui se passait et comment gérer tout ça. Et donc, j'ai commencé à lire Isabelle Filozza, à aller à ses stages et à commencer à un peu comprendre ce qu'étaient les émotions et ce qui se passait. Ça a été une découverte. En fait, à 25 ans, peut-être, à 25 ans, j'ai découvert qu'on avait des émotions et que moi aussi, j'en avais. Et que justement, en fait, j'en avais tellement que c'est pour ça que j'essayais de ne pas les montrer. Et c'est parce que je ne savais pas les gérer. Puis dans un milieu professionnel, on ne peut pas les montrer. Ce n'était pas autorisé non plus. On n'est pas avocat, on ne va pas pleurer, quoi.
Mathilde, c'est sublime, parce qu'il y a vraiment cette notion d'alignement, en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression que la petite fille qui rêvait d'être maîtresse d'école se retrouve aujourd'hui dans un système d'éducation, un système de transmission de tout ce que tu as réussi à récupérer sur ton chemin et sur ton parcours. Peut-être pour terminer, ma dernière question, ça va être celle-là. On est aujourd'hui à Auroville, donc voilà. Est-ce que tu te sens aujourd'hui à ta place ou tu continues dans une forme de quête ou comment est-ce que tu te ressens? Quelle est l'émotion que tu as envie de poser là maintenant dans le micro par rapport à ce que tu vis, la réalité que tu t'es construite?
Je me sens bien. Je me sens alignée, c'est ça, alignée entre mes valeurs et ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur et ce que je fais au quotidien. Puisque je continue du coup, ça fait depuis 2015 que je travaille avec les enfants, qui sont donc des enfants complètement défavorisés du village. Je continue à leur transmettre des choses qui sont très importantes pour moi, qui sont la bienveillance et l'écoute de soi, et leur offrir un espace où ils peuvent s'exprimer et partager leur quotidien qui est difficile. Et en même temps, ouais, c'est ça, en fait, je vis avec mes valeurs. Et ça fait du bien. Ça apporte un calme intérieur. Après, je pense que j'ai toujours une petite part de moi qui est en quête, de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais. Mais une grande partie se sent satisfaite et a l'impression d'avoir trouvé et d'avoir mis du sens et de ne pas avoir besoin de chercher trop non plus plus loin et d'être plutôt réceptif à ce que la vie m'envoie, en fait. D'être là, de vivre au quotidien et d'être réceptif.
Et peut-être, dernière question, une philosophie, une phrase, une citation, quelque chose qui t'inspire, un peu comme un mantra que tu aimes bien te répéter dans ton quotidien ou quand tu en as besoin.
Il y a une phrase que j'avais lue justement dans l'ashram d'Ama, qui là vient, c'est une parmi tant, mais c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et je pense qu'on se met beaucoup de limites qu'on a reçues de notre conditionnement, qu'on se met nous-mêmes dans la tête ou que notre famille essaie de nous imposer. Et en fait, il faut essayer, il faut se lancer, il faut essayer. Parce qu'il y a une autre chose qui est très importante aussi, tiens, à laquelle je pense, c'est que le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est le fait d'agir malgré la peur. Et la peur, ça nous guide aussi. Et je pense que c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'il faut pas se lancer, quoi. Il faut s'écouter, il faut se lancer, il faut essayer. On rate, bah c'est pas grave, on a appris quelque chose et on fera différemment la prochaine fois, quoi.
Mathilde, merci beaucoup.
Je t'en prie, avec plaisir.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.